Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Afrique. Au moins 2 personnes ont été tuées et 5 blessées ce mardi dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, en Somalie, près du ministère somalien du pétrole. C'est ce qu'annonce un responsable sécuritaire, Mohamed Abdoulaye Toula. L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée, mais les islamistes radicaux Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener de telles opérations dans la capitale somalienne. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils maintiennent leur emprise sur de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale Mogadiscio. Et toujours concernant la campagne anti-djihadiste, mais au Sahel maintenant, au Nigeria, intensification des attaques de Boko Haram dans le nord-est du pays à 3 semaines du scrutin présidentiel. Le bilan sécuritaire du président Muhammadu Buhari est très critiqué malgré les affirmations répétées du chef de l'État selon lesquelles le groupe djihadiste est pratiquement vaincu. L'escalade des violences soulève en outre des questions sur la manière dont des élections peuvent être organisées dans les zones touchées par les combats où plus d'un million 800 000 personnes ne peuvent pas toujours regagner leur foyer. Nouvelle attaque également au Burkina Faso. Au moins 4 soldats ont été tués et 4 autres blessés lundi à Nassoumbou dans le nord du pays. Dimanche, une autre incursion avait coûté la vie à 10 civils. Les détails avec Bagassi Koura.
Des individus lourdement armés et non identifiés ont attaqué hier matin la base militaire de Nassoumbou. Ils sont arrivés à bord d'engins à 2 roues. Ils ont tiré avec des roquettes, déclenchant un incendie dans la même base où 12 soldats ont été tués en décembre 2016. La force française Barkhane a dû intervenir avec un avion Mirage venu de Niamey au Niger et un hélicoptère Tigre venu de Gao au Mali. Les assaillants ont battu en retraite en direction de la frontière malienne. Dimanche, 10 civils ont été tués par des assaillants qui ont ouvert le feu sur les habitants du village de Sikiré à moins de 100 km de Nassoumbou. Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur les 45 que compte le Burkina Faso. Malgré tout, le 10 janvier, 12 civils ont été tués dans le village de Gassiliki. Face à la multiplication des attaques qui ont fait près de 300 morts, le président Roch Kabore a limogé le chef d'état-major des armées et remplacé la semaine dernière les ministres de la Défense et de la Sécurité.
En Côte d'Ivoire, rien ne va plus entre le chef de l'État Alassane Ouattara et l'ex-président Henri Konan Bédié, leader du PDCI. Deux anciens alliés au sein du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et le développement et la paix. Dans le même temps, cette semaine, Alassane Ouattara a annoncé que Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, va quitter son poste le mois prochain. Pourquoi cette tension entre le président Ouattara et l'ex-président Bédié et les remous au sein du bloc ayant soutenu le chef de l'État? Idriss Fall a posé la question à Alexis Tano, directeur du journal Le Jour Plus à Abidjan.
Le phénomène est connu depuis 7 mois en arrière, depuis que le président du PDCI a décidé de sortir de l'alliance. Les deux parties ne sont plus entendues et la situation a dégénéré jusqu'à la formation concrète du parti politique RHDP. Le samedi dernier.
Ouattara Bédié, est-ce qu'on risque de revenir à ces fameux conflits des enfants d'Oufoué?
Mais c'est déjà engagé. Quand vous entendez les discours de part et d'autre, samedi dernier, l'ancien président du Côte d'Ivoire, le président du PDCI, qui a déjà lancé les pics depuis Daoukro, et il a été répondu par le président du nouveau parti RHDP en meeting au stade Félix Oboy. Il faut dire que la bataille est déjà engagée pour 2020 et on a même bien peur qu'on retombe dans les travers du passé.
Et tout ceci intervient alors que Guillaume Soro lui aussi annonce qu'il va quitter la tête de l'Assemblée nationale.
Oui, le bruit courait, mais cela a été confirmé par le chef de l'État lui-même ce matin au cours d'une présentation de vœux à la presse nationale et internationale. Le président de la République de Côte d'Ivoire a annoncé que Guillaume Soro et lui se sont entendus et que ce dernier présentait sa démission dans le courant du mois de février.
Et Guillaume n'était pas présent à l'ouverture du congrès du RHDP, le nouveau parti de M. Ouattara.
Non, Guillaume Soro avait déjà délégué ses pouvoirs à l'un de ses vice-présidents, à la personne du député Oula Priva. Mais bien avant, il avait rencontré le chef de l'État pour lui annoncer les réserves qu'il avait déjà émises sur la formation du RHDP en tant que parti unifié. Il faut signaler aussi que Guillaume Soro avait déjà eu une inscription dans une université aux États-Unis, donc il devait s'y rendre pour poursuivre ses études.
Et ce qui va compliquer la chose, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI, même si on attend sa sortie de prison.
Oui, ça pourrait déjouer effectivement les calculs, mais la participation de Laurent Gbagbo aux élections de 2020 n'est pas encore claire, étant donné que les poursuites judiciaires engagées contre lui, aussi bien au pays qu'à la haine, ne sont pas encore définitivement closes. Donc, il faut comprendre que la situation de Laurent Gbagbo n'est pas tout à fait claire. La bataille se joue d'abord entre les partis qui existent déjà, la plateforme que l'ancien président Henri Konan Bédié veut former, la plateforme de l'opposition contre le RHDP, et le parti nouvellement créé RHDP qui entend garder le pouvoir. Le président de la République, Alassane Ouattara lui-même l'a dit, il veut garder le pouvoir jusqu'en 2050. Est-ce que l'opposition, avec la nouvelle plateforme qui va se former, aura les moyens de le déboulonner 2020, nous le dira.
Alexis Tano, directeur du journal Le Jour Plus à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique au Cameroun, les autorités camerounaises veulent décapiter le parti de Maurice Kamto. C'est ce qu'a estimé aujourd'hui son vice-président Emmanuel Sim dans un communiqué dénonçant l'arrestation la veille de l'opposant et de plusieurs de ses soutiens à Douala. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, condamne fermement ces interpellations politiques injustifiées dont le but inavoué est de décapiter le MRC et sa coalition gagnante autour de Maurice Kamto, dit le texte. Le leader du MRC, Maurice Kamto, qui revendique toujours la victoire à la présidentielle d'octobre, dont il est arrivé officiellement en deuxième position derrière le président Paul Biya, a été arrêté lundi soir au domicile d'Albert Dzongang, un homme politique qui soutient le leader du MRC. En République démocratique du Congo, trois chefs d'une milice rebelle, dont un homme accusé du meurtre de 39 policiers en 2017, se sont rendus aux autorités ce mardi au Kasaï, région du centre du pays, théâtre d'un conflit en 2016-2017 et fief du nouveau président Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a déclaré un responsable local, Joseph Moutipaï, administrateur du territoire de Louébo dans la province du Kasaï. Depuis l'investiture la semaine dernière de Félix Tshisekedi, natif de cette région du Kasaï, comme président de la République démocratique du Congo, au moins 650 militants Kamuna Nsapu ont déposé librement les armes pour manifester leur satisfaction sur un total de 1700 miliciens actifs sur le terrain. RDC toujours, le gouvernement congolais a annoncé hier avoir extradé vers le Rwanda deux chefs rebelles autour des FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, dont leur porte-parole basé Fils Laforge. Précision d'Irénée Amon Ongo.
Les deux individus étaient recherchés par la justice de leur pays. Nous les avons extradés en application d'un accord de coopération judiciaire entre la RDC et le Rwanda, a déclaré Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa. Pire, lors de l'interpellation de Bazeille Fils Laforge, porte-parole des FDLR, il était en situation répréhensible, a-t-il ajouté. Monsieur Mende n'a pas voulu révéler le jour de l'extradition ni la nature des actes répréhensibles reprochés à Monsieur Bazeille Laforge. Mi-décembre, les autorités rwandaises avaient annoncé l'arrestation des deux responsables FDLR en RDC avant la confirmation des officiels congolais. Les FDLR sont présentes dans l'est de la RDC depuis 1994. Certains de leurs chefs sont accusés d'être responsables du génocide qui a fait près de 800 000 morts au Rwanda.
Conflit en Afghanistan pour terminer les négociations de paix entre les États-Unis et les talibans pour mettre fin à 17 ans de guerre dans le pays sont encourageantes. C'est ce qu'a fait savoir Washington, le nouveau patron du Pentagone, les précisions de John Lindon.
Les États-Unis ont longtemps refusé des pourparlers directs avec les talibans afghans. Hier, Patrick Shanahan, patron par intérim du Pentagone, a estimé que les négociations menées jusqu'ici sont encourageantes. Questionné sur un éventuel retrait de la moitié des 14 000 soldats américains en Afghanistan, il s'est abstenu de tout commentaire. Par contre, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui se trouvait à côté de M. Shanahan, a jugé qu'il était trop tôt pour parler d'un retrait des forces de l'OTAN d'Afghanistan. Pour sa part, l'émissaire américain pour la paix en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a annoncé qu'une ébauche d'accord a été établie à Doha avec les talibans pour mettre un terme aux 17 ans de conflit.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.